Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Ma che fai? Aggredisci.
Ma sta tappando, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphilanthropes et cinéphilosophes. Bonjour et bienvenue en 2025, où le cinéma existe toujours. Coup de bol pour nous, et où donc Cinémascope continue d'ausculter l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, toujours en délicieuse compagnie. Et aujourd'hui, on est avec Alexis. Salut Alexis.
Salut, on essaye d'être en délicieuse compagnie.
Ouais.
Et
Olivier.
Et bonjour.
Mais oui, en délicieuse compagnie, Olivier. Et toujours avec Sylvain, en 2025, pour ses 25 ans.
Toujours là, oui.
Oh, mais jubilé. Tu es jeune et pimpant.
Le ouais. Jubilé de Sylvain, ouais, j'y ai pensé beaucoup ces derniers temps. Bravo.
Merci.
Franchement.
On va discuter de pas mal de films à l'affiche. On va discuter de Bonjour l'asile, La chambre d'à côté, Conclave, Un ours dans le Jura et Mon inséparable. Puis on dira peut-être un mot au Canada, mais peut-être. On commence alors sans bande-annonce, sans affiche, comme ça, à l'Ardéchoise, avec le premier film qui a fait l'ouverture des Rencontres des cinémas d'Europe et qui sera présenté en avant-première ce soir à Privas et demain au Vence à 16h, avec évidemment une rencontre, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces avant-premières, avec une rencontre avec Judith Davis, qui est la réalisatrice. On parle de Bonjour l'asile avec toi, puisque tu le présentes au Vence, Alexis.
Oui, effectivement, donc c'est le deuxième long métrage troisième long métrage, c'est ce que j'ai regardé, donc de Judith Davis, qui après donc son succès de Tout ce qu'il vous reste de la Révolution en 2019, se frotte avec le film Bonjour l'asile, qui est une comédie satirique, sociale et environnementale, on va dire, tous ces mots mis à la suite. Et donc j'ai eu la chance de le voir, alors pas au Benat, parce que je pouvais pas, donc le distributeur m'a envoyé un lien de visionnage pour que je puisse voir le film pour l'avant-première, bien sûr. Et je peux vous dire déjà que j'ai beaucoup aimé, parce que elle a un message assez, déjà assez féministe, forcément dans son thème, hein, et donc comme on disait, écologique. Et alors je vais pas dire grand chose, mais je vais juste vous dire que on suit l'histoire de trois personnes qui s'entremêlent, qui se rencontrent. Alors on a deux sœurs. Qui est donc une sœur qui décide de partir à la campagne, qui habitait en grande ville, et la petite sœur, elle, qui décide de partir 3 jours la voir pour une œuvre artistique. Et la troisième personne, elle va se greffer à cette histoire, qui est un entrepreneur immobilier, qui va en fait tous les trois se croiser dans un, on appelle ça une HP, donc ça va être un lieu de rencontre pour toutes les personnes hors système et qui vont accepter la différence, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce lieu-là va être une bulle temporelle pour ces trois personnes qui vont en fait se lier, entre guillemets, avec des histoires différentes, donc avec une histoire d'émancipation entre l'homme et la femme, parce qu'il y a l'émancipation de l'homme, les codes des hommes, donc c'est-à-dire cette masculinité qu'un homme doit faire sentir aux yeux de la société, qui va en fait se déconstruire au fur et à mesure du film, et la femme, elle, qui va essayer plutôt de s'émanciper de son couple, et de la troisième sœur, qui elle est plutôt une femme indépendante, et qui va se rendre compte que dans un couple, justement, c'est pas toujours évident. Voilà, il faut savoir communiquer. En fait, ces trois-là vont arriver dans cette petite HP qui va être une bulle temporelle qui va permettre de résoudre des conflits. Et pour la petite histoire, quand même, une petite anecdote, c'est que cette HP-là, en fait, tout le long du film, le promoteur immobilier veut en faire un hôtel de luxe. Et la petite histoire, c'est que c'est un vieux château qui a été pris pour l'occasion. Et en fait, il est devenu un hôtel de luxe par la suite. Voilà, donc c'est la petite conclusion que je peux vous dire, ouais, le petit message. Voilà.
On a beaucoup de messages positifs en cette nouvelle année, je trouve.
C'est vrai. Et si je peux rebondir juste pour l'avant-première, donc cette avant-première, on a fait un arrangement avec Priva, justement pour l'organisation de cette séance, et je tiens à dire que c'est quand même une mobilisation positive citoyenne qu'on a de plus en plus au cinéma, c'est-à-dire que c'est les gens qui viennent nous voir, qui nous ont dit, voilà, on a apprécié ce film pendant les rencontres à Aubenas, est-ce que vous avez la possibilité de faire venir la réalisatrice, elle est de sa grand-mère est de Priva, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et donc nous, on a tenu à faire cette séance pour remercier cette mobilisation citoyenne. Et voilà, on est super contents de pouvoir l'accueillir. C'est des choses comme ça qui permettent de faire des séances rencontres.
Super, bah merci. Donc bonjour l'asile, ce sera ce soir en avant-première avec Judith Davis pour en parler à Priva à 20h30 et demain à 16h au Vence. Merci beaucoup. On continue avec la chambre d'à côté.
The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. Ingrid, do you think I need to say goodbye to my closest friends?
I think you should do whatever you want to do.
I will not go out in mortifying anguish.
I don't know what to say.
I'm hoping you'll say yes.
Yes to what?
Oui à quoi? Est-ce qu'on dit oui à ce film La chambre d'à côté de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore, qu'on a entendu, on y a aussi John Turturro. Un film de Pedro Almodovar en anglais, son premier, tourné aux États-Unis. En américain. En anglais américain. Alors, Olivier... Est-ce que tu dis oui à ce film?
Ah oui, oui, oui. Je dis même oui deux fois, parce que comme vous pouvez voir dans mon petit carnet, j'ai été le voir deux fois. Une fois en version française, laissez tomber, et puis une fois en version originale. Je ne suis pas un âpre défenseur des versions originales, parce que si elles consistent, pour quelqu'un qui ne pipe pas un mot la langue étrangère, à passer sa séance à lire les sous-titres, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, malheureusement, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais la version française est désastreuse. C'est un film où les dialogues sont, non pas, c'est pas un film bavard, mais les dialogues sont importants, très bien faits, assez sophistiqués. Et les voix françaises sont complètement décalées des personnages. Tant esthétiquement, je veux dire que là, au niveau de la sensation, on n'a pas l'impression d'avoir la voix de la personne qu'on voit. Déjà, vraiment pas.
C'est problématique.
Et puis alors surtout, et c'est plus grave, pour le ton. C'est-à-dire que Martha, qui est gravement malade et qui a choisi de mourir, hein, c'est le synopsis du film en compagnie de son amie, Ingrid, on lui donne dans la version française un ton... je ne sais pas, autoritaire, coercitif, absolument invraisemblable, qui n'est pas du tout le cas dans la version américaine. Donc il faut vraiment faire attention. Quant à Ingrid, son amie qui l'accompagne, sa voix, un peu le voix d'une cruche, comme ça, alors qu'au contraire, elle est autrice, et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement fin, qui va très très bien justement accepter d'accompagner son amie dans son dernier voyage, comme nous disons bêtement. Donc... préliminaire, allez voir la version originale, même si vous ne comprenez pas grand-chose à l'anglais. La lecture des sous-titres ne vous empêchera pas d'apprécier le film qui est une merveille. Dans une masterclass pour Télérama animée par Frédéric Strauss, Almodovar dit « Je ne peux pas me passer de la vitalité des couleurs ». Et le film, c'est ça. C'est le film de quelqu'un qui ne peut pas se passer de la vitalité des couleurs. Vu le sujet du film, quelqu'un qui va mourir et qui est accompagné par quelqu'un qui est bien vivant, ça prend tout son sens. Et alors, je ne me rappelle pas honnêtement avoir vu un film présentant une telle palette de couleurs. Comme si un plasticien... s'était jeté dans une boutique de matériel pour créer et avait utilisé les aquarelles, les pastels, les acryliques, les couleurs d'imprimerie, les couleurs vieillissantes, passées ou au contraire les
couleurs flashantes, etc. Tout y est. Donc, c'est une pure merveille. Et, évidemment, on ne peut pas travailler la couleur indépendamment de la forme. Il n'y a pas de forme sans couleur, de couleur sans forme. Et alors, il y a parallèlement au travail sur la couleur, un travail sur les formes, à la manière de, je dirais, non pas tellement de l'œuvre picturale de Kandinsky, mais à la manière de ses écrits. C'est-à-dire, il y a une vraie méditation sur le point, la ligne, le plan. Comment ils se combinent. Donc, il y a un travail sur les verticales avec l'architecture new-yorkaise ou les pins dans la forêt qui entoure la maison qui sont choisis pour se réunir les deux. Il y a les verticales des livres dans les bibliothèques, les verticales des filets d'eau qui coulent dans l'évier. Et puis, alors, les horizontales, ça va être des horizons, des barrières, des canapés, des transats. Et puis, quelques formes qui vont être mises en avant, comme le cercle, la parabole, et tout ça dans toutes les couleurs imaginables. Les formes elles-mêmes vont apparaître grâce à l'architecture, en particulier l'architecture de la maison où elle trouve refuge, et je dirais aussi, c'est intéressant, l'architecture des vêtements. Ces femmes sont... Martha, qui va mourir, et qui est interprétée donc, par Tilda Swinton, qui a un corps de mannequin, un peu, très grande, très fine, ça me rappelle quelqu'un. Elle porte ses vêtements comme pour une présentation de mode, j'ai pas un défilé, plutôt une présentation, souvent assez statique. Et alors, effectivement, même la maison, qui est une maison d'architecture contemporaine, très originale, ça a été filmé dans la Manche, en Espagne, vous avez des formes qui sont saturées de couleurs. Le noir et le blanc sont utilisés comme des couleurs et non pas comme des éléments visant à délimiter des formes. Et donc c'est très intéressant. On est à l'inverse de la ligne claire d'une certaine manière. Et donc du coup, ça fait penser évidemment à la peinture espagnole. Je pense à Velázquez, Murillo, etc.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'espagnol ? C'est marrant parce que tu as parlé de justement que le tournage s'est fait en partie en Espagne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'espagnol ?
La production déjà. El Deseo, ce sont les producteurs, ce sont les frères Almodovar qui ont produit le film. Quand on entend des journalistes dire que c'est Almodovar qui devient hollywoodien, quand même, il y a de quoi vraiment. Surtout que la partie américaine se joue à New York, sur la côte est. Ça n'a rien à voir avec Hollywood. Hollywood brûle-t-il toujours ? Alors, pas du tout. C'est vrai que la partie tournée en Espagne, c'est pour la campagne. C'est pour la campagne. Et la partie citadine, c'est New York, avec une très très belle façon de filmer New York. Enfin, c'est presque un personnage de cinéma, New York. Et là, il trouve encore une fois son rôle de personnage de cinéma exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui est espagnol ? Je dirais plutôt les références picturales implicites. Parce que les références picturales explicites sont américaines, Nora Carrington, Hopper, un peu le surréalisme américain aussi, Leonora Carrington, avec un petit jeu sur les noms qui sont proches, etc., comme si c'était deux amis, alors qu'elles font des peintures très, très différentes. Et quand on regarde la peinture de Nora Carrington, donc qui fait référence pour le spectateur pour lire le film, on voit cette façon de travailler en couleur saturée, à privilégier la couleur sur la forme qu'on retrouve dans la peinture classique espagnole, Velázquez, Murillo, Zurbarán, de Ribera, etc.
J'ai deux questions, mais rapides.
Oui, pardon.
Est-ce que tu sais pourquoi, j'ai pas entendu, est-ce que tu sais pourquoi il a choisi de faire ce film-là en américain, justement ?
Oui, je ne sais pas du tout. C'est son premier long-métrage comme ça. Par contre, il avait déjà, avec Swinton, fait un film de 30 minutes en anglais. Donc, je ne connais pas... On peut imaginer qu'il voulait faire un pas de côté pour réveiller l'attention du spectateur.
Et la sienne propre.
Et peut-être la sienne propre, mais pas du tout. Et ça, il le dit, Almodovar... pas du tout faire un film qui sortirait de la série de ses films. Et du coup, moi, quand j'avais beaucoup, beaucoup aimé Gloire et beauté, qui m'avait fait, à cause du sujet du film, un peu l'effet d'un testament possible du cinéma d'Almodovar, Dieu merci, ça n'a pas été un testament, il continue. Et là, je dirais qu'on a affaire plutôt à une quintessence du cinéma d'Almodovar et mention spéciale pour la façon de traiter le sujet en évitant... le ramassis de pensif en évitant la comédie romantique bébête, justement, à la Hollywood, en maintenant un niveau de réflexion très élevé sans être emmerdant. Et ça, c'est quand même un sacré challenge sur un sujet quand même aussi particulier. C'est vraiment un film, je vais retourner le voir, je crois, une troisième fois.
En quelle langue ?
Ben, je vais essayer de trouver une version espagnole, tant qu'à faire.
Oui, bien sûr. Merci. Donc, La Chambre d'à côté de Pedro Almodovar est à voir au Navire en ce moment. La semaine prochaine, il sera en plus à Privas. Et à partir du 22, il sera au Vence et à Rosières. On part pour un autre film où là aussi on joue sur la langue puisque c'est un film dans la cité papale mais en anglais.
The Pope is dead. The throne is vacant. Is a war.
There is one sin which I have come to fear above all others.
Should all be ashamed?
Certainty. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith.
Il y a du violon, il y a de l'action. Conclave de Edouard Berger, j'imagine, puisqu'il est allemand, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini. Tu es allé voir Conclave, Alexis.
Ouais. Si on a envie de voir Voldemort au Vatican, et on y va tout de suite. Donc oui, j'ai vu Conclave, je l'ai vu en VO, donc, qui était très appréciable. J'ai entendu aussi la version VF, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit, et ça m'a fait un peu bizarre pour le coup. Et en plus, dans le film, ça parle italien, ça parle différentes langues, parce que forcément, il y a plusieurs nationalités, et on essaye, enfin en tout cas dans la version VO, on essaie bien de représenter, il y a plusieurs camps, hein, pour chaque pays, et donc on voit bien ces camps-là avec la langue en plus, donc... C'est hyper intéressant. Donc, Conclave. On peut noter qu'il a eu donc, le Golden Globe du meilleur scénario. Alors, est-ce que c'est mérité sur tous les autres films qui ont été présentés ? Sûrement, peut-être, ça se discute. Mais il mérite quand même son prix, malgré, je pense, une fin qui me paraît très tirée par les cheveux. Parce que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, on sait, de toute façon, l'histoire, c'est le pape meurt mystérieusement, et donc le cardinal qui est choisi pour organiser le conclave va faire un petit peu son enquête au sein du Vatican pour savoir si le pape cachait quelque chose, si les cardinaux cachent des choses aussi pour se faire élire. Voilà.
Intrigue au Vatican.
Ce qu'a motivé un peu le film ce film-là par le réalisateur, c'est qu'en fait, il voyait ça un peu comme un thriller politique, parce que c'est des politiques. Voilà. Il y a plein de questions qui se posent au sein du Vatican, qui sont politiques, qui sont d'ordre social, qui sont d'ordre... On parle de génération aussi, parce que les problématiques d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes, la religion n'est plus la même non plus, on est obligé de faire de l'acceptation au sein de l'Église, donc il y a plein de sujets qui sont traités justement, et on voit toutes les problématiques qui se posent actuelles entre la religion et les problèmes sociétaux. Sociétaux, pardon. Ce qui va se passer, c'est que dans ce film, c'est assez drôle, parce qu'on va voir, par exemple, toute cette communauté qui va utiliser leur portable. Donc, on va aller voir fumer, on va aller voir utiliser les portables, etc. Et ça fait un paradoxe complet, parce que même avec l'image, on les voit, l'image est très blanche et on les voit en rouge. Donc, tout est en paradoxe total. Et nous, on est là en train de se dire, mais... Waouh, on est dans cette espèce de voyeurisme, on se dit mais on a cette chance de rentrer à l'intérieur, on se demande ce qui se passe quand c'est un conclave, et justement on voit un petit peu ce thriller qui s'emmène à nous, et en fait on voit toute l'élection d'un pape, avec des moments de vote, et ces moments de vote justement ça aurait pu être très ennuyant, parce que des personnes qui votent, c'est pas le principe, c'est dont ça a été monté, et ça a été très réfléchi par Édouard Berger et ses monteurs. Ce qu'ils avaient peur, eux, c'est que ça soit voilà, un moment très très ennuyé. Et l'objectif, c'est que ça a été tourné, réalisé, du fait qu'il faut que ça devienne un thriller. Donc à chaque passage, à chaque vote, il se passe quelque chose. Donc il y a un rebondissement. Il y a cet effet aussi politique qui fait que en fait la personne qui part en majorité au départ va peut-être se retrouver dernier parce qu'il s'est passé quelque chose dans le film qui fait qu'il arrive dernier. Voilà, et c'est que de la manipulation, c'est voilà, et c'est hyper intéressant. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce film, et la question qui m'a été posée à la fin du film, c'est mais est-ce que ça a vraiment été tourné au Vatican? Et non. Et donc, je me suis renseigné un petit peu. Et en fait, il s'avère que ça a été tourné donc à Rome, mais à la Cinecittà, du coup. Donc, la Cinecittà, je voulais juste faire un petit rappel. Donc, ça a été fondé en 1937 sur la volonté de Benito Mussolini. Benito Mussolini, oui. Ces studios seraient destinés à soutenir le cinéma italien à l'époque. Mmh. Il a été partiellement détruit par les bombardements dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été reconstruit dans les années 50 ils sont devenus un des plus grands studios d'Europe malgré à l'heure actuelle le cinéma italien qui est en pente descendante depuis très longtemps, mais voilà, et c'est à savoir que ça a été tourné à l'intérieur, et en fait le décor c'est un décor qui a été repris qui a été recyclé en fait parce qu'il avait été utilisé dans certains films, voilà.
D'accord. D'autres films, je pensais justement, il y a pas mal de films, enfin il y a quelques films en tout cas qui se passent, dont les intrigues se passent justement autour du pape, autour du Vatican. Il y a même cette série, tu en parlais, oui, hors micro, The New Pope.
De Sorrentino. Superbe. Et il y a aussi le film de...
Abemus Papam,
effectivement, avec Piccoli, énorme.
Donc Conclave, qui est à voir au Quinconce de Valls et à Priva en ce moment, et qui sera la semaine prochaine, tu pourras aller le voir Olivier, qui sera la semaine prochaine au Navire à Aubenas. Et puis alors sans aucune transition, si ce n'est Olivier et le Pantigrade.
Michel, viens voir.
Qu'est-ce qu'on fait?
Oh,
c'est beaucoup. C'est combien?
Beaucoup.
Cathy, Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales?
Anormales, c'est-à-dire?
Deux hommes, une femme, du miel.
Oh non, 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 non. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement?
2 millions. C'est une somme.
On va le cacher.
Et oui, cachons-le, Un ours dans le Jura, de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Laure Calamy, qu'on a entendu, Benoît Poulvorde aussi. On parle beaucoup d'humour à la sauce des frères, ouais, Cohen.
Oui. Je voulais dire, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, La chambre d'à côté, il ne faut pas aller le voir en espagnol, hein. Je me reprends, parce qu'il faut aller le voir vraiment en anglais, parce qu'il y a des références littéraires à James Joyce qui seraient différentes, enfin, qui n'auraient rien à voir en espagnol. Voilà, point. Oui, donc un film de Dubosc.
Franck Dubosc, oui.
Voilà. Avec un magnifique casting, Laure Calamy, mm-hmm, dont on va reparler, j'imagine. Et puis Poulvorde, et puis Franck Dubosc lui-même, et puis voilà.
Emmanuel De Vos, j'ai vu, qui faisait une...
Oui, courte, merci pour la participation de Emmanuel De Vos. c'est un pastiche de Fargo, hein, des frères Cohen, évidemment. Et je dirais peut-être plus encore un pastiche de la série que les frères Cohen avaient produite, qui compte 5 saisons sur Fargo. Et vous avez effectivement, donc bonne surprise dans ce film, vous avez cette sensation. Alors bon, le pitch peut-être rapidement. Oui. Bon, Franck Dubosc rentre chez lui, il tombe sur un ours, il veut l'éviter, il tue 2 personnes.
Pas de bol.
Il s'approche de la voiture dans laquelle se trouvaient les personnes et il trouve un sac avec 2 millions d'euros. C'est une somme, on a entendu. Hein. C'est une somme. Alors, voilà, ça part de là. Et ensuite, on a un film qui me fait l'effet d'une série. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes d'une dizaine de minutes, mettons, qui s'ajoutent les uns aux autres, qui s'enchaîne très très bien avec une histoire, un thriller, un début, un milieu, une fin, comme j'aime bien dans les histoires, il n'y a pas de problème. Mais on sent qu'on pourrait très bien faire focal sur tel personnage, tel lieu, tel événement, l'extraire et en tirer une série. Si bien, si vous voulez, l'effet que ça donne, c'est que la plupart...
Un pilote de série, peut-être.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça donne... ça se voit au fait que la plupart des seconds rôles, parce que finalement, Laure Calamy et Franck Dubos sont les deux personnages principaux, mais leur fils, le gendarme, Boulevard, la gendarmette, j'ai oublié son nom, magnifique, peuvent chacun devenir le personnage central d'une autre histoire à partir de laquelle on verrait différemment l'histoire qui se déroule. Donc ça donne au film une richesse qui pourrait presque confiner au désordre, hein, d'une certaine manière. Hein. Mais on y échappe. Par conséquent, c'est un film qui est extrêmement distrayant parce que justement, on rebondit sans arrêt du fait que tour à tour, les différents événements, les différents personnages prennent de l'intérêt et Poulvord par exemple plante sa tente pour camper, un gendarme tout à fait convaincant, pas du tout caricatural, plutôt intelligent, grand cœur, etc. Donc d'où cette idée que ce personnage assez secondaire pourrait devenir presque un personnage de... Donc on a un effet sériel, comme la musique sérielle, comme ça, de la deuxième école de Vienne, vous savez, on pourrait effectivement considérer que 5 ou 6 épisodes pourraient être le développement de moment du film.
C'est peut-être dans les cartons.
Je sais pas, pourquoi pas. En tous les cas, il y a ce qu'il faut en termes d'humour, de pastiche.
Ça se tient jusqu'au bout.
À mon avis, oui. À mon avis, oui.
Pour toi, ça se tient. Le film tient ses promesses.
Oui. Okay. À mon avis, oui.
Ce que je disais, ça me faisait penser. Enfin, je n'ai pas vu le film, j'ai vu juste la bande-annonce. À Polar Park, la très bonne série sur Arte de Gérald Eustache Mathieu avec Jean-Paul Rouve.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas être éventuellement un peu fatigué du côté un petit peu pléthorique comme ça. C'est pas impossible. Ceci dit, je voyais une critique de Gaël Golen là, dans Première, qui disait à peu près ce que je dis aussi, et qui dit aussi qu'effectivement on risque le trop-plein, mais qu'on y échappe.
Ok. Voilà. Vous n'échapperez peut-être pas à cette ours dans le Jura qui est au cinéma à Ruyons, au Navire à Aubenas, et la semaine prochaine il sera en plus au Teil, au Quinconce de Vals et à Privas. Allez, on reste en compagnie de Laure Calamy dans un tout autre registre.
Je te manquerai pas ?
Un petit peu.
Comment ?
Un petit peu, juste un petit peu.
Juste un petit peu.
Juste un petit peu.
Il s'indigne ! Un peu de respect pour ta mère ! Ozen.
S'il y a quelqu'un, s'en fiche.
Pour toi, je peux te parler.
Joël avait été plutôt avide de questions là-dessus.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, Ozen ?
Elle m'a dit, je suis amoureuse de Joël, j'avais compris qu'ils avaient un peu d'intimité, mais je m'attendais pas du tout.
Vous le connaissez vraiment, votre garçon ?
Et vous connaissez vraiment votre fille ?
Arrête, Gabriel, écoute, c'est ridicule.
Voilà, les choses sont posées dans ce film. Mon inséparable de Anne-Sophie Bailly, son premier film avec, donc on l'a entendu, Laure Calamy, Charles Pecciagalletto et Julie Froger. J'imagine qu'on prononce comme ça. Alexis, tu voulais parler de ce film, Mon inséparable.
Oui, parce que ce film est très fort et on parle d'handicap sans en parler. C'est pas le premier sujet qui va vous venir à l'esprit dès qu'on voit ce film-là. On va plutôt s'orienter sur autre chose. Donc on suit l'histoire de Mona, mère d'un enfant, on va dire en retard, on va dire ça comme ça. C'est expliqué comme ça dans le film, qui va avoir une aventure avec une jeune femme qui a aussi des retards également et qui vont attendre un enfant. Et tout va basculer justement avec ça, c'est-à-dire que plein de questions vont se poser. Est-ce que ces deux personnes sont légitimes pour avoir un enfant ? Est-ce que, parce qu'en fait, on va les remettre en question sans cesse. Est-ce que deux personnes handicapées ont le droit d'avoir un enfant? Est-ce que une maman qui s'est occupée de son fils toute sa vie va accepter de ça? Parce que justement, elle, ça a été donc un phare. Entre guillemets, un fardeau, parce qu'elle le dit bien dans le film, elle l'exprime. Et moi, il y a des moments qui m'ont choqué dans le film, qui m'ont dit, mais en fait, je n'ai pas le droit de dire que je voulais avoir un enfant normal, parce que j'ai pas le droit de le dire, c'est tabou. Mais elle s'est oubliée, en fait. Mais c'est plus que ça, ça parle d'enfants handicapés, mais ça parle aussi d'avoir des enfants. D'avoir des enfants, c'est s'oublier. Voilà, c'est ne plus s'occuper de soi, ne plus s'écouter. Et en fait, c'est ce qui se passe pour elle encore plus, parce que elle, c'est plus intense encore. Et en fait, on va la suivre tout le long du film à avoir ces paradoxes-là entre qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu te rends compte que quand même ce que c'est d'avoir un enfant et elle va essayer de s'émanciper. C'est une double émancipation entre la mère et le fils. Et on va voir les difficultés qu'ils vont avoir. Et c'est un lien toxique parce que dans le film, à un moment, lui veut essayer de s'émanciper. Il lui dit, tu sais, il faut qu'on se quitte parce qu'on se tire vers le bas. Et dans une interview de Laure Calamy, Bakri lui aurait dit, en fait, plus on s'approche du soleil, plus il brûle. Donc, et plus on s'expose et plus on brûle. Et en fait, plus on reste longtemps et plus on se tire vers le bas. Et donc, j'ai trouvé ça très bien parce qu'en fait, ça parle vraiment du double émancipation. Et allez voir ce film parce qu'on ne parle pas que d'handicap. On parle surtout d'un lien. Il y a une forme de poésie dans ce film-là. Ça parle aussi de sexualité, donc de plaisir. Et cette sexualité-là, de toute façon, c'est réalisé par une femme. Et on voit que on voit que c'est une femme qui l'a réalisé tout simplement parce que toute l'équipe du film sont des femmes, quasiment, quand on regarde le générique. Donc c'est hyper intéressant parce que je pense qu'un homme qui aurait fait ce film-là n'aurait pas eu du tout la même vision. Alors pour moi, c'est vraiment déjà la vision de la femme et la vision d'élever un enfant est complètement différente d'un homme. Et de ce point de vue-là, ça a été traité rien que par rapport à la sexualité de la femme, on ne s'arrête pas à son corps, on s'arrête à son plaisir. Et c'est-à-dire que en tant que spectateur, on est là, on dit ouf pour elle, c'est-à-dire qu'elle prend du plaisir enfin. Voilà. Et nous, en tant que spectateurs, on reste spectateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de jugement à donner. C'est-à-dire que, autant son fils qu'elle, ils ont raison tous les deux. Voilà. Et on est ébahis devant ça en se disant, c'est la réalité. Voilà. C'est du cinéma social. Donc, si on aime le cinéma de Jeanne Henry, par exemple, c'est tout à fait le film qu'on peut aimer également. Donc, j'encourage les gens à aller le voir.
Mon Inséparable, donc, qui est en ce moment au Vence, et la semaine prochaine, il sera à Rosières et il sera aussi un petit peu plus tard au Teil. Pas prévu pour l'instant au Navire à Aubenas, mais sait-on jamais. On avait prévu au Canada, mais malgré l'affiche qui était assez intéressante, hein, un film de Paul Schrader qui, 40 ans après American Gigolo, retrouve Richard Gere et Uma Thurman et pour ce film au Canada, d'après un livre de Banks, je crois, Russell Banks. Mais on peut peut-être passer à autre chose.
Juste dire que c'est un film très décousu, malheureusement, et qui avait un énorme potentiel, mais qui ne va pas au bout de ses pensées, qui perd le spectateur dans son histoire, voilà, et ça peut perturber. Mais il y a quand même des points positifs. Hein, mais
le bon, jeu, j'imagine quand même.
Oui, c'est ça. Mais très alléchant, mais très déçu. Ouais, voilà.
Faites-vous votre propre opinion au foyer de Rosières, au Vence, à Ruon-Sauteuil. En même temps, on l'a très mal vendu. Pour terminer dans l'agenda, je vous rappelle que débute ce soir le 3e festival du film paysan. Et la première date, là, près de chez nous, ce sera au cinéma des Vences samedi, avec demain La Vallée. On pourra voir aussi le 13, lundi, à Ruons, Tu nourriras le monde. Auteuil, Vigne sur le fil. Et puis, vous trouverez toutes les dates sur... sur quoi? Sur laconf07.org. Vous trouverez toutes les dates, voilà.
Et 16 dates, j'ai l'impression. Donc,
ouais. Et puis une dernière chose, mercredi aussi une belle initiative du cinéma Le Regain, Auteuil, une séance avec Atelier Cinéma à partir de 6 ans, donc c'est Maya Donne-moi un titre, ça c'est la séance à 10h et à 16h, et puis il y aura un atelier animation papier découpé autour du film visionné. Voilà, pour apprendre à faire des films, même quand on est petit, ça ce sera mercredi. Allez chercher les infos sur le site du Regain du Teil. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous voulez ajouter quelque chose, votre dernier mot ?
Oui. Si je peux juste dire qu'au Vent, ce jeudi soir, on a une séance, un film, un livre, qui est une nouvelle, un nouveau concept avec les médias, enfin un nouveau concept au Vent.
Au Vent, je parle.
Tu parles à Olivier Horry qui a animé un livre, un film des années sur cette radio.
Je parle pour au Vent, attention. Et en collaboration avec les librairies, la médiathèque et l'imprimerie plurielle.
Enfin,
voilà.
Mais Ouais, très intéressant, peut-être qu'on t'invitera une fois pour parler de tout ça dans une émission. Bah, merci beaucoup d'avoir été autour de cette table. Merci Sylvain pour la réalisation. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. D'ici là, bon ciné. Ciao.
Voilà.